Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. On va parler de Planck en compagnie de François Boucher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous travaillez à l'IAP, l'Institut d'astrophysique de Paris. Et d'ailleurs, depuis de nombreuses années, vous travaillez sur Planck, le satellite. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour faire le point sur cette grande aventure qui est celle de Planck. D'ailleurs, pourquoi s'appelle-t-il Planck? Pourquoi a-t-on donné le nom du physicien allemand à ce satellite?
Alors, l'expérience Planck a pour vocation de faire une cartographie d'une qualité inégalée du rayonnement fossile du Big Bang, dont une de ses caractéristiques est d'avoir une distribution en énergie, on va dire, ce qui est un petit peu compliqué, mais je vais expliquer, qui correspond à une fonction mathématique, une description qui est la fonction de Planck, parce que Monsieur Planck est celui qui a étudié le rayonnement qui est présent à l'intérieur d'un four, par exemple, quand on met un volume à une certaine température, il y a du rayonnement qui est dedans. Ce rayonnement obéit, il est en équilibre, et dans ce cas-là, il obéit à une certaine distribution d'énergie, qui est une distribution de Planck. Et donc, on a donné son nom. Il se trouve, par ailleurs, que dans l'univers, il y a une phase très chaude, très dense, au cours de laquelle le rayonnement est en équilibre avec le reste de la matière, est en équilibre, il obéit donc à cette distribution, cette loi de Planck, et par la suite, il la garde, même s'il n'est plus en équilibre, et donc l'univers baigne, on va y revenir je suppose dans la suite, dans un rayonnement dont la propriété essentielle est décrite par une courbe dite de Planck, due à M. Planck, ce physicien allemand.
C'est ce qu'on appelle le corps noir.
Le corps noir, voilà. Un rayonnement de corps noir, c'est décrit par une fonction de Planck.
Voilà. C'est pas évident, hein. Quand on débarque dans la physique, expliquer le rayonnement du corps noir, c'est pas une affaire simple. Alors, vous avez donné l'image du four, hein. C'est là où Monsieur Planck intervient, c'est-à-dire que lui donne effectivement une image physique.
Alors, corps noir,
de ce qui se passe.
D'ailleurs, ça peut être c'est pas obligatoirement noir, puisque en fait, en fonction de la température, cette distribution correspond à des longueurs d'onde, donc à une lumière qui est plus ou moins visible. Donc, quand on est à haute température, ça correspond autour du visible. Il se trouve que quand on a des températures très froides, au lieu d'avoir la lumière correspondante, n'a plus son maximum dans l'ordre du visuel, mais plutôt dans l'ordre du millimètre. Donc en fait, pour être très précis, ce qui a valu le prix Nobel à Penzias et Wilson, c'est la découverte d'un rayonnement de fond qui est à 2,7 degrés, Kelvin, ou à 2,7 Kelvin, c'est-à-dire proche du zéro absolu, moins de 170, vite dit, degrés Celsius. Et donc, ce rayonnement à 2,7 Kelvin correspond à de la lumière qui est de l'ordre de millimétrique.
Alors, on a besoin de faire appel à l'histoire, hein, François Boucher, pour vraiment bien comprendre le contexte dans lequel Planck s'inscrit, parce que c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, hein, sans mauvais jeu de mots, c'est simplement qu'à un moment donné, il s'est passé, vous parlez des prix Nobel, mais il s'est passé des découvertes très importantes, et sur ces découvertes-là, comme on disait, grimper sur l'épaule des géants, hein, vous montez plus haut. Alors, vous avez parlé de Penzias et Wilson. Premier prix Nobel sur l'affaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire, en fait, qu'est-ce qu'ils ont trouvé et pourquoi c'était important?
Alors, ils ont trouvé ce qui aurait dû être ce qui a été prédit par quelqu'un qui n'a pas eu le prix Nobel, mais qui l'aurait certainement mérité, qui est Gamow. Donc, dans les modèles dits de Big Bang, on va partir un peu plus loin. Au tournant du siècle, on a découvert que l'univers était en expansion. Ça, c'est Hubble, grâce aux nouvelles découvertes, notamment sur les céphéides, en fait, un ensemble d'outils qui ont permis de commencer à arpenter l'univers, d'avoir une idée de sa taille, et puis de découvrir qu'il était en expansion. Alors ça a beaucoup surpris, mais il se trouve qu'à peu près au même moment, on a peu de temps avant une théorie, celle d'Einstein, qui permet de penser tout ça. Et donc, assez rapidement, il va y avoir un modèle qui va émerger, et avec trois figures tutélaires, hein, Friedman, Lemaître, qui sont deux des figures importantes du domaine, et qui vont finalement nous permettre de décrire un univers en expansion. Alors, quand on remonte vers le passé, on va s'apercevoir à ce moment-là que si on remonte dans le temps, l'univers devait être plus chaud, plus dense, etc. Alors les gens ont commencé à se poser des questions, à quoi pouvait ressembler cette phase plus chaude, plus dense, etc. Alors il y a l'idée que finalement ça serait une soupe à peu près homogène, etc., très chaude, très dense. Et puis les idées de Lemaître un peu, c'est l'idée d'atome primitif, que finalement on pourrait imaginer un scénario par lequel des petites fluctuations pourraient finalement croître et se développer jusqu'à devenir en gros l'univers qu'on observe. Alors ça, c'était une partie. Il y avait à peu près assez rapidement, on s'est rendu compte aussi que pour rendre compte de l'abondance des éléments dits légers, de l'ensemble des éléments du début de la table de Mendeleïev plutôt que léger, finalement, on n'arrivait pas à tout faire dans les étoiles. Et qu'on arriverait à fabriquer un schéma global de la nucléosynthèse, c'est-à-dire la fabrication des différents éléments, si on supposait que, justement, dans une des premières phases de l'univers, il y ait ce milieu très chaud, très dense, etc., qui, à partir essentiellement de protons, fabriquerait, en gros, le début de la chaîne, et puis le relais serait pris par les étoiles.
Il fallait un feu initial.
Voilà. Alors, à partir de là, Yagamov qui a commencé aussi à se dire, mais alors finalement, il y a cette époque très chaude, très dense, avec de la lumière en équilibre, et puis par un raisonnement très simple, mais que je ne vais pas reproduire ici, il se rend compte que finalement, il devrait y avoir un reste de cette période très chaude et très dense, donc un rayonnement qu'on va appeler fossile, et finalement, comme il était en équilibre, il devrait à peu près avoir une distribution dite de Planck. Et puis, est-ce qu'on ne peut pas estimer sa température? Et puis, avec justement un certain raisonnement, il aboutit à, finalement, on peut estimer ce que c'est de proche du zéro absolu, quelques degrés.
Comme un écho lumineux, mais thermique.
C'est un écho lumineux. C'est un écho lumineux, mais simplement suffisamment de la lumière, quote-unquote, suffisamment froide pour qu'elle ne soit plus dans le domaine ni du visible, ni de l'infrarouge proche, mais de l'infrarouge lointain, voire millimétrique. Donc, c'est de la lumière. Simplement, elle est suffisamment froide pour que, bien qu'étant une lumière ayant une courbe de corps noir, donc en équilibre, elle se trouve hors de ce que nos bâtonnets au fond de l'œil peuvent percevoir. Tout simplement. Et pour remettre tout ça un peu ensemble, donc on a à un moment donné la conjonction de ce qui démarre la cosmologie scientifique, d'une certaine manière, une théorie qui permet de décrire scientifiquement, disons, l'univers comme objet, c'est la théorie de la relativité générale, 1915, Vilde dit. Il y a aussi Hubble qui découvre donc l'expansion. À partir de là, on arrive à construire des modèles d'univers en expansion qui sont décrits par des modèles dits de Friedman, Robertson, Walker et puis Lemaître. Et puis, on se rend compte que pour débuter la chaîne de fabrication des éléments à partir de l'élément le plus simple, il faut une première phase de nucléosynthèse dite primordiale, et que la conséquence de tout ça, c'est qu'on s'attend à ce qu'il y ait un résidu, une lumière fossile, froide, de l'ordre de quelques degrés. Alors ça, c'est Gamow, celui qui n'a pas eu le prix Nobel et qui l'aurait bien mérité.
Qui le pense? C'est lui qui le pense, mais...
Pas que lui, moi aussi. et puis beaucoup d'autres.
Non, mais qui pense le rayonnement fossile.
Voilà, en fait, le rayonnement fossile, il le prédit, il prédit ses propriétés. Alors, pas tout seul, il y a aussi ses étudiants, etc. Mais voilà, ça, c'est un des grands moments. Et puis, ça devient pas oublié, mais c'est mis dans une case. Et puis, alors, il y a par ailleurs des gens qui, dans un autre contexte, construisent une expérience à Princeton, où il y a Dickey, celui qui a inventé un certain type de radiomètre, puis son équipe entourée de jeunes talentueux, un certain théoricien qui s'appelle Jim Peebles, Roll, un instrumentaliste, un certain Wilkinson. Tout ça, c'est l'équipe de Princeton qui essaye sur le toit de fabriquer, avec ces techniques de radiomètre, de détecter pas exactement ce qu'avait vu Gamow, mais un rayonnement tout à fait similaire, parce qu'il pensait à un univers périodique. Mais bon, il cherchait ce rayonnement. Et là, patatras, alors qu'ils sont en train de monter leur manip, on leur apprend qu'il y a d'autres personnes qui semblent avoir découvert ça sans trop savoir de quoi il s'agissait. Alors, les autres, c'est Penzias et Wilson. Alors, Penzias et Wilson, c'est dans un contexte un petit peu différent. Eux, c'est le début de l'utilisation des satellites, des ballons, etc., pour transmettre de l'information. Et dans un contexte d'un gros programme au Bell Labs, ils sont en train de mettre au point une antenne dans ces domaines de longueur d'onde. Et ils ont monté leur manip, ces deux jeunes radioastronomes, ils ont fait leurs calculs et ils trouvent un certain bruit de fond de leur détecteur, comme il y en a toujours, mais qui est au-delà de ce qu'ils attendent. Ils ont fait leurs calculs et ils s'attendent à avoir fabriqué un instrument qui devrait avoir un bruit de fond résiduel à un certain niveau. Ils trouvent plus. Et donc ils cherchent. Ils passent par tout un tas d'événements et de tentatives. Et ils continuent à trouver ce résidu, et qui est quelque chose qui est assez rigolo, c'est ça a l'air d'être isotrope, si ça vient du ciel. Alors isotrope, ça veut dire qu'il est le même dans toutes les directions. Et donc, c'est quand même un truc un peu bizarre, parce que n'importe quel signal qui va être, par exemple, d'origine galactique, a priori, il va avoir une signature en fonction de la hauteur galactique. Donc, a priori, quelque chose d'un peu surprenant. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Et il y a quelqu'un qui va faire l'entremetteur, si vous permettez l'expression, qui connaît à la fois les gens de Princeton et les connaît, et qui les met en contact, et très rapidement, on s'aperçoit que finalement, ce que cherchent les gens de Princeton, c'est ce que les gens de Bell Labs très, très proches ont trouvé. Du coup, la publication dans l'Astrophysical Journal, les deux papiers, quand on les regarde, c'est intéressant d'aller voir, parce que maintenant c'est électronique, mais on va voir, il y a les deux papiers back-to-back, c'est-à-dire l'un derrière l'autre, où il y a... alors, ils ont un titre, le papier de Penzias et Wilson, c'est du genre « Un bruit supplémentaire dans l'électronique à ton ». Voilà, c'est un truc vraiment où il n'y a pas d'interprétation. Et puis, il y a le papier de ceux qui n'ont pas trouvé, mais qui faisaient tout pour le trouver, qui donne l'interprétation cosmologique de la chose.
Il y a de la prédétermination et du hasard.
Voilà. Alors ça, c'est le début de cette longue histoire. Alors ça, c'est que tout le début, parce que ce que font Penzias et Wilson, c'est une détection à une longueur d'onde donnée. Or, la caractéristique qui est attendue pour le signal cosmologique, elle est double. Elle est d'une part... Si c'est véritablement cosmologique, ça doit être isotrope, c'est-à-dire ça doit être le même dans toutes les directions. Mais ça ne doit pas simplement être ça, ça doit être aussi doté d'une distribution en énergie ou en longueur d'onde qui est décrite par une courbe de Planck. Parce que précisément, l'idée, c'est que c'est un résidu d'une époque où l'univers était en équilibre entre matière et rayonnement, où ils interagissaient, et donc ça doit avoir une forme de Planck. Donc, de manière cruciale pour l'identification de ce rayonnement, on doit pouvoir vérifier que la distribution d'intensité en fonction non seulement de la direction, mais en fonction cette fois-ci de la fréquence ou de la longueur d'onde, est décrite par cette loi de Planck. Du coup, une longue période d'observation et de construction d'expériences diverses et variées pour progressivement rajouter des points à différentes fréquences et dire est-ce que ça s'aligne bien sur une courbe de Planck. Et donc progressivement, on voit apparaître cette courbe au cours des années, chacun met son point. Alors, il y a avec une histoire mouvementée, parce qu'il y a des moments, certaines expériences ont cru voir un gros écart, donc il y a eu des centaines de papiers littéralement qui ont été pour interpréter pourquoi il y avait un écart, etc. Puis progressivement, on s'aperçoit que dans un cas, c'était les gaz de la fusée qui étaient passés devant la fenêtre du détecteur. Enfin, je vous la fais courte. Toujours est-il que progressivement, le paysage se dégage et... arrive un grand moment de cette histoire qui est le satellite Kobe.
Alors, avant d'arriver juste au satellite Kobe, parce qu'il y a effectivement des épisodes historiques importants, on lit parfois dans la littérature que finalement, on peut chez soi, entre guillemets, capter ce rayonnement de fond cosmologique quand on allume, par exemple, la télévision entre deux chaînes, vous savez, le blanc, la neige qu'il y a sur l'écran. Et j'ai lu dans la littérature que 1% de cette neige venait du rayonnement de fond cosmologique. C'est une info qui vous
J'en
surprend
sais rien.
Ah bon, bon
ben, voilà. Le chiffre, je ne sais pas, qu'il y ait de la neige, oui, ouais. De la neige radio, entre guillemets, oui. Je sais aussi qu'on peut construire avec des pièces d'électronique contemporaines carbone qu'on va trouver chez le Taïwanais du coin, si vous me permettez. Ça, on peut le faire. Je sais qu'il y a une manip, notamment, qui est faite à l'APC, je pense, qui essaye exactement de faire ça. Donc, on est en train d'essayer de rendre disponible, globalement, cette capacité à détecter ce rayonnement de corps noir avec de la technologie radio ou télé, disons, assez standard.
Ça veut dire que nous baignons dedans, en fait.
Ah oui, on baigne complètement dedans.
C'est vraiment...
Tout l'univers, enfin, pas nous, tout l'univers baigne. Enfin, en gros, un rayonnement à 2,7 Kelvin, c'est un rayonnement qui correspond à 400 photons par centimètre cube. 400, c'est beaucoup, dans tous les centimètres cubes de l'univers. Il y a beaucoup de centimètres cubes dans l'univers. Donc voilà, il y en a partout. Tout centimètre cube de l'univers baigne à ces 400 photons. Alors, il passe au travers, évidemment, puisque il passe à la vitesse de la lumière.
Alors, seconde révolution de cosmologie observationnelle, en tout cas, c'est la phase spatiale. Vous avez cité Kobe, satellite américain, qui a valu à l'un de ses auteurs, en tout cas scientifique, le prix Nobel aussi. Que découvre Kobe et qu'on découvre, nous, dans nos journaux, sous le nom « la première photo la plus ancienne de l'univers ».
Alors, Kobe, c'est une expérience... qui fait son époque. Pour moi, c'est une expérience faramineuse, je veux dire, parce que finalement, il y avait trois expériences à bord et deux expériences sont menées à un prix Nobel. Enfin, chacune d'entre elles a mené à un prix Nobel et la troisième, sans être peut-être tout à fait peut-être du même niveau, a aussi apporté des résultats très intéressants. Donc, c'est assez rare de voir un seul objet qui fait une telle moisson. Alors, de quoi s'agit-il ? Sur Kobe, il y a notamment une expérience qui est là, dont nous allons parler, qui s'appelle FIRAS, donc qui s'appelle Far Infrared Spectrometer. Alors en français, ça veut dire spectromètre pour l'infrarouge lointain. Alors un spectromètre, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet qui permet de mesurer l'intensité en fonction de la fréquence ou de la longueur d'onde. Or, si vous vous souvenez ce que je vous ai dit, qu'est-ce qui caractérise une courbe de Planck ? Et donc un rayonnement thermique, et donc ce fameux rayonnement fossile, c'est de faire très précisément avoir une certaine distribution. Donc ce spectromètre, il a pour objectif justement de mesurer la distribution en énergie ou en fréquence ou en ce que vous voulez, du rayonnement cosmologique. Et alors qu'est-ce qu'il a trouvé ? Alors il a trouvé deux choses. Il a trouvé que dans tout le domaine de fréquence dont il a fait l'analyse, on trouve bien un corps noir avec une précision faramineuse. C'est-à-dire que c'est un très 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 beau corps noir qui est... en fait, quand on fait un tracé sur un dessin, enfin sur un papier, les barres d'erreur sont plus petites que l'épaisseur du trait, pour vous donner une idée. Donc la différence avec la courbe mathématique est extraordinairement faible dans tout le domaine qui a été fait par FIRAS. Alors, ils n'ont pas trouvé que ça, parce qu'en fait, leur spectromètre, il se baladait sur le ciel. Donc en fait... on peut aussi, avec une précision un peu moindre, faire un spectre en fonction de la direction. Et donc, ce qu'ils ont vérifié, c'est que le spectre était bien un spectre de corps noir en fonction dans toutes les directions. Donc, les deux propriétés essentielles qui étaient nécessaires pour établir l'origine cosmologique de ce rayonnement ont été complètement obtenues par ce satellite.
Pourquoi fallait-il aller dans l'espace pour le faire ?
Tout simplement parce que quand on essaye de mesurer de manière très très propre un rayonnement qui correspond à des températures extraordinairement froides, moins 270 degrés, toute température supérieure va se brouiller, va se superposer, et donc c'est très exactement aller chercher, plus on se met dans un environnement chaud, plus c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, ce que vous commencez à faire, c'est quand vous voulez faire une mesure de précision ultime, vous commencez par enlever le plus de foin possible. Ça va être plus facile pour trouver l'aiguille.
Donc, première observation, on confirme que c'est un rayonnement de corps noir. Deuxième observation.
Donc ça veut donc dire que ça a été aussi, avant même de passer à la suite, je vous sens venir, mais avant de passer à la suite, ça veut quand même dire que les explications alternatives qu'il y a eu, parce que dans cosmologie, il n'y a pas eu que le modèle de Big Bang, il y a eu beaucoup d'autres tentatives, tout à fait légitimes d'ailleurs, d'explications, de construction de scénarios, etc. En revanche, une des propriétés du modèle dit de Big Bang, c'était qu'il était passé par une phase très chaude, très dense, en équilibre, etc., et que donc il devait y avoir ce rayonnement avec cette forme-là. A contrario, si on le prédit et qu'on le trouve, c'est pas bon pour les autres théories qui l'ont pas prédit. Donc, ça a apporté beaucoup d'eau au moulin, disons, du modèle de Big Bang. C'est un des éléments absolus, un des piliers les plus fondateurs, disons, du modèle de Big Bang, et qui fait que il y a plus beaucoup de cadre cosmologique global en compétition pour concevoir l'univers. Donc ça, c'est un aspect très important en tant que tel, avant de passer à la deuxième partie, qui est que à bord de ce satellite, il y avait deux autres expériences, dont l'une qui s'appelait DMR, donc Differential Microwave Radiometer, dont l'investigateur principal était George Smoot, qui a eu aussi le prix Nobel, pour une autre découverte qui est liée à ce corps noir. Cette fois, il va s'agir non plus de la distribution en énergie, mais de la distribution spatiale, ou en fonction de la direction.